Aussi, dans les fêtes qui furent données en cette occasion, le caractère qui domine est-il un caractère bien plus guerrier que religieux, et semble-t-il plutôt appartenir à la nomination d'un jeune conquérant qu'à l'exaltation d'un vieux pontife. Ce n'était que jeu de mots et inscriptions prophétiques sur le nom d'Alexandre, qui, pour la seconde fois, semblait promettre aux Romains l'empire du monde, et le même soir, au milieu des illuminations ardentes et des feux de joie qui semblaient faire de la ville un lac de flammes, on lut, au milieu des acclamations de la populace, l'inscription suivante. Sous César autrefois, Rome, par la victoire, se fit reine chez elle et maîtresse en tout lieu. Mais Alexandre encore fera plus pour sa gloire. César n'était qu'un homme. Alexandre est un dieu. Quant au nouveau pontife, à peine avait-il rempli les formalités d'étiquette que lui imposait son exaltation et payé à chacun le prix de sa simonie, qu'il jeta, du haut du Vatican, les yeux sur l'Europe, vaste échiquier politique qu'il avait l'espérance de diriger au gré de son génie. Le monde en était arrivé à une de ces époques suprêmes où tout se transforme entre une période qui finit et une ère qui commence. À l'Orient, la Turquie, au Midi, l'Espagne, à l'Occident, la France, au Nord, l'Allemagne, allait prendre, avec le titre de grande nation, cette influence qu'elle devait exercer dans l'avenir sur les États secondaires. Nous allons donc jeter, avec Alexandre VI, un coup d'œil rapide sur elle et voir quelle était leur situation respective à l'égard de l'Italie qu'elle convoitait toute comme une proie. Constantin Paléologue Dragoses, assiégé par 300 000 Turcs, après avoir appelé en vain toute la chrétienté à son secours, n'ayant pas voulu survivre à la perte de son empire, avait été trouvé au milieu des morts, près de la porte Tophana, et le 30 mai 1453, Mahomet II avait fait son entrée à Constantinople, où, après un règne qui lui avait mérité le surnom de Fatile, ou le vainqueur, il était mort, laissant deux fils, dont l'aîné était monté sur le trône sous le nom de Bajazet II. Cependant, l'avènement du nouveau sultan ne s'était point accompli avec la tranquillité que son droit d'aînesse et le choix de son père devaient lui promettre. Djem, son frère cadet, plus connu sous le nom de Zizim, avait targué de ce qu'il était porphyrogénète, c'est-à-dire né pendant le règne de Mahomet, tandis que Bajazet, antérieur à cette époque, n'était que le fils d'un simple particulier. C'était une assez mauvaise chicane, mais là où la force est tout et où le droit n'est rien, elle était suffisante pour soulever une guerre. Les deux frères, chacun à la tête d'une armée, se rencontrèrent donc en Asie en 1482. Djem fut défait après un combat de 7 heures et poursuivi par son frère qui ne lui donna pas le temps de rallier son armée. Il fut obligé de s'embarquer en Cilicie et se réfugia à Rhodes où il implora la protection des chevaliers de Saint-Jean qui, n'osant lui donner asile dans leur île si proche de l'Asie, l'envoyèrent en France où ils le firent garder avec soin dans une de leurs commanderies malgré les instances de Caïd Bey, soudan d'Égypte, lequel, s'étant révolté contre Bajazet, désirait, pour donner à sa rébellion une apparence de guerre légitime, avoir le jeune prince dans son armée. Même demande, au reste, avait été faite successivement et dans un même but politique par Matthias Corvinus, roi de Hongrie, par Ferdinand, roi d'Aragon et de Sicile, et par Ferdinand, roi de Naples. De son côté, Bajazet, qui savait toute l'importance d'un pareil rival, si, une fois, il était allié, soit de l'un, soit de l'autre des princes avec lesquels il était en guerre, avait envoyé des ambassadeurs à Charles VIII, lui offrant, s'il s'engageait à retenir Djem auprès de lui, une pension considérable et la souveraineté de la Terre Sainte pour la France dès que Jérusalem serait conquise sur le Soudan d'Égypte. Le roi de France avait accepté. Mais alors, Innocent VIII était intervenu et avait réclamé Djem à son tour, en apparence pour appuyer des droits du proscrit une croisade qu'il prêchait contre les Turcs, mais en réalité pour toucher la pension de 40 000 ducats due par Bajazet à celui des princes chrétiens, quel qu'il fût, qui se chargeait d'être le geôlier de son frère. Charles VIII n'avait point osé refuser au chef spirituel de la chrétienté une demande appuyée sur de si saintes raisons, de sorte que Jem avait quitté la France, accompagné du grand maître d'Aubusson, sous la garde directe duquel il était, et qui, moyennant un chapeau de cardinal, avait consenti à céder son prisonnier. De sorte que, le 13 mars 1489, le malheureux jeune homme, point de mire de tant d'intérêts divers, fit son entrée solennelle à Rome, monté sur un superbe cheval, revêtu d'un magnifique costume d'Orient, entre le prieur d'Auvergne, neveu du grand maître d'Aubusson, et François Cibot, fils du pape. Depuis cette époque, il y était resté, et Bajazet, fidèle à des promesses qu'il avait si grand intérêt à remplir, avait exactement payé au souverain pontife une pension de 40 000 ducats. Voici pour la Turquie. Ferdinand et Isabelle régnaient en Espagne et jetaient les fondements de cette vaste puissance qui devait, 25 ans plus tard, faire dire à Charles Quint que le soleil ne se couchait point sur ses états. En effet, ces deux souverains, auxquels l'histoire a conservé le nom de catholiques, avaient conquis successivement presque toutes les Espagnes et chassé les Maures de Grenade, leur dernier retranchement, tandis que deux hommes de génie, Barthélemy Diaz et Christophe Colomb, venaient à leur profit l'un de retrouver un monde perdu, l'autre de conquérir un monde ignoré. Ils avaient donc, grâce à leur victoire dans l'Ancien Monde et à leur découverte dans le Nouveau, acquis à la cour de Rome une influence dont n'avait joui aucun de leurs prédécesseurs. Voici pour l'Espagne. En France, Charles VIII avait succédé, le 30 août 1483, à son père Louis XI, qui, à force d'exécution, lui avait fait un royaume tranquille et tel qu'il convenait à un enfant montant sur le trône sous la régence d'une femme. Au reste, régence glorieuse et qui avait contenu les prétentions des princes du sang et terminé les guerres civiles en réunissant à la couronne tout ce qui restait encore de grands fiefs indépendants. Il en résultait qu'à l'époque où nous sommes arrivés, Charles VIII, âgé de 22 ans à peu près, était, s'il faut en croire la Trémouille, un prince petit de corps et grand de cœur. S'il faut en croire Comines, un enfant ne faisant que sortir du nid, dépourvu de sens et d'argent, faible de sa personne, plein de son vouloir et accompagné de fous plutôt que de gens sages. Enfin, s'il faut en croire Guicciardini, qui, en sa qualité d'Italien, pourrait bien en avoir porté un jugement un peu partial, un jeune homme peu intelligent des actions humaines et transporté par un ardent désir de régner et d'acquérir de la gloire, désir bien plus fondé sur sa légèreté et sur son impétuosité que sur la conscience de son génie, ennemi de toute fatigue et de toute affaire. Lorsqu'il essayait d'y donner son attention, il se montrait presque toujours dépourvu de prudence et de jugement. Si quelque chose paraissait en lui digne de louange au premier coup d'œil, en y regardant de plus près, on trouvait que ce quelque chose était encore moins éloigné du vice que de la vertu. Il était libéral, il est vrai, mais inconsidérément, sans mesure et sans distinction. Il était quelquefois immuable dans sa volonté, mais par obstination et non par constance, et ce que ses flatteurs appelaient en lui bonté méritait bien mieux le nom d'insensibilité aux injures ou de faiblesse d'âme. Quant à son portrait physique, s'il faut en croire le même auteur, il était encore moins avantageux et répondait merveilleusement à cette faiblesse d'esprit et de caractère. Il était petit, avait la tête grosse, le cou gros et court, la poitrine et les épaules larges et élevées, les cuisses et les jambes longues et grêles. Et comme avec cela son visage était laid, à l'exception de son regard qui avait de la dignité et de la vigueur, et que tous ses membres étaient disproportionnés entre eux, il avait plutôt l'air d'un monstre que d'un homme. Tel était celui dont la fortune devait faire un conquérant, et auquel le ciel réservait plus de gloire qu'il n'en pouvait porter. Voici pour la France. L'Empire était occupé par Frédéric III, que l'on avait à bon droit appelé le Pacifique, par la raison, non pas qu'il avait toujours maintenu la paix, mais parce qu'ayant constamment été battu, il avait toujours été contraint de la faire. La première preuve qu'il avait donnée de cette longanimité toute philosophique avait été pendant son voyage à Rome, où il se rendait pour être sacré. En traversant les Apennins, il fut attaqué par des brigands qui le pillèrent et contre lesquels il ne fit aucune poursuite. Aussi, encouragé par l'exemple et l'impunité des petits voleurs, Les grands s'en mêlèrent-ils bientôt? Amurat s'empara d'une partie de la Hongrie, Mathias Corvin prit la Basse-Autriche et Frédéric se consola de ses envahissements en répétant cette maxime « L'oubli est le remède des choses que l'on a perdues. » Au moment où nous en sommes arrivés, il venait, après un règne de 53 ans, de fiancer son fils Maximilien à Marie de Bourgogne et de mettre au ban de l'Empire son gendre Albert de Bavière, qui prétendait à la propriété du Tyrol. Il était donc trop occupé de ses affaires de famille pour pouvoir s'inquiéter de l'Italie. D'ailleurs, il était en train de chercher une devise à la maison d'Autriche, occupation des plus importantes pour un homme du caractère de Frédéric III. Enfin, cette devise, que devait presque réaliser Charles Quint, fut trouvée à la grande joie du vieil empereur qui, jugeant qu'il n'avait plus rien à faire sur la terre après cette dernière preuve de sagacité, mourut le 19 août 1493, laissant l'Empire à son fils Maximilien. Cette devise était tout bonnement les cinq voyelles A-E-I-O-U, initiales de ces cinq mots Austrie est imperare orbi universo. Ce qui veut dire « C'est le destin de l'Autriche de commander au monde entier ». Voilà pour l'Allemagne. Maintenant que nous avons jeté les yeux sur les quatre nations qui tendaient, comme nous l'avons dit, à devenir des puissances européennes, ramenons nos regards sur les États secondaires qui formaient un cercle plus rapproché autour de Rome et qui devaient, pour ainsi dire, servir d'armure à la reine spirituelle du monde, s'il plaisait à quelqu'un des géants politiques que nous avons décrits, d'enjamber pour venir l'attaquer, les mers ou les montagnes, le golfe Adriatique et les Alpes, la Méditerranée ou les Apennins. C'était le royaume de Naples, le duché de Milan, la magnifique république de Florence ou la sérénissime république de Venise. Le royaume de Naples était aux mains du vieux Ferdinand, dont la naissance était non seulement illégitime, mais probablement même incestueuse. Son père, Alphonse d'Aragon, tenait sa couronne de Jeanne de Naples, qu'il avait adoptée pour son successeur. Mais comme, par crainte de manquer d'héritier, la reine à son lit de mort en en avait nommé deux au lieu d'un, Alphonse eut à soutenir ses droits contre René. Les deux prétendants se disputèrent quelque temps la couronne. Enfin, la maison d'Aragon l'emporta sur celle d'Anjou, et pendant l'année 1442, Alphonse s'affermit définitivement sur le trône. Ce sont les droits du prétendant expulsé que nous verrons Charles VIII réclamer bientôt. Ferdinand n'avait ni la valeur ni le génie de son père, et cependant il triompha successivement de ses ennemis. Il eut deux compétiteurs qui, tous les deux, lui étaient fort supérieurs en mérite. L'un était le comte de Vianne, son neveu, qui, arguant de la naissance honteuse de son oncle, disposait de tout le parti aragonais. L'autre était le duc Jean de Calabre, qui disposait de tout le parti angevin. Cependant, il les écarta tous les deux et se maintint sur le trône, fort de sa prudence, qui allait souvent jusqu'à la duplicité. Il avait l'esprit cultivé, avait étudié les sciences et surtout la législation. Il était d'une taille médiocre, avait la tête grande et belle, le front ouvert et admirablement encadré dans de beaux cheveux blancs qui lui tombaient jusque sur les épaules. Enfin, quoiqu'il eût rarement exercé sa force physique par les armes, cette force était si grande qu'un jour qu'il se trouvait sur la place du Marché Neuf, à Naples, il saisit par la corne un taureau qui s'était échappé et l'arrêta court, quelques efforts que celui-ci tenta pour s'échapper de ses mains. Au reste, l'élection d'Alexandre lui avait causé une grande inquiétude et, malgré sa prudence, il ne put s'empêcher de dire, devant celui qui lui avait apporté cette nouvelle, que non seulement il ne se réjouissait pas de cette élection, mais encore qu'il ne pensait pas qu'aucun chrétien pût s'en réjouir, attendu que Borgia, ayant toujours été un méchant homme, serait certainement un mauvais pontife. Au reste, ajouta-t-il, ce choix fut-il excellent et cette élection dut-elle plaire à tous les autres, elle n'en serait pas moins fatale à la maison d'Aragon, encore qu'il en soit né sujet et qu'il lui doive la source et les progrès de sa fortune. Car là où entrent les raisons d'État, elles ont bientôt exilé les affections du sang et de la parenté, à plus forte raison, par conséquent, les simples relations de sujet et d'obligé. Ainsi qu'on le voit, Ferdinand jugeait Alexandre VI avec sa perspicacité habituelle, ce qui ne l'empêcha pas, ainsi que nous le verrons bientôt, d'être le premier qui contracta alliance avec lui. Le duché de Milan appartenait nominativement à Jean Galéas, petit-fils de François Sforza, qui s'en était emparé par violence le 26 février 1450 et l'avait légué à Galéas Marie, son fils, père du jeune prince régnant. Nous disons nominativement parce que le véritable maître du Milanais était à cette heure non pas l'héritier légitime qui était censé le posséder, mais son oncle Ludovic, surnommé Il Moro, à cause du mûrier qu'il portait dans ses armes. Exilé avec ses deux autres frères, Philippe, qui mourut empoisonné en 1479, et Ascagne, qui devint cardinal, il rentra dans Milan quelques jours après l'assassinat de Galéas Marie, qui eut lieu le 26 décembre 1476 dans la basilique de Saint-Étienne, et s'empara de la régence du jeune duc, qui n'avait alors que 8 ans. Depuis cette époque, et quoique son neveu eût atteint l'âge de 22 ans, Ludovic avait continué de gouverner, et selon toute probabilité, devait gouverner longtemps encore, car quelques jours après avoir manifesté le désir de reprendre le pouvoir, le pauvre jeune homme était tombé malade, et l'on disait tout haut qu'il avait pris un de ces poisons lents mais mortels, dont les princes de cette époque faisaient un usage si fréquent que, lors même qu'une maladie était naturelle, on lui cherchait toujours une cause que l'on pût rattacher à quelque grand intérêt. Quoi qu'il en soit, Ludovic avait relégué son neveu, trop faible pour s'occuper désormais des affaires de son duché, dans le château de Pavie, où il languissait sous les yeux de sa femme Isabelle, fille du roi Ferdinand de Naples. Quant à Ludovic, c'était un ambitieux, à la fois plein de courage et d'astuce, familier avec l'épée et le poison, qui, selon les occasions, sans avoir de prédilection ni de répugnance pour l'une ou pour l'autre, les employait alternativement, et qui, au reste, était bien décidé à hériter de son neveu, soit qu'il mourût ou soit qu'il ne mourût pas. Florence, quoiqu'ayant conservé le nom d'une république, en avait peu à peu perdu toutes les libertés et appartenait de fait, sinon de droit, à Pierre de Médicis, à qui Laurent l'avait, ainsi que nous l'avons vu, au risque du salut de son âme, légué comme un bien paternel. Malheureusement, le fils était loin d'avoir le génie du père. Il était beau, il est vrai, tandis qu'au contraire, Laurent était d'une laideur remarquable. Il avait une voix agréable et harmonieuse, tandis que Laurent avait toujours nasillé. Il était instruit dans les langues grecques et latines, il avait la conversation agréable et facile, et improvisait des vers presque aussi bien que celui qu'on avait nommé le Magnifique. Mais il était, quoiqu'ignorant aux affaires politiques, orgueilleux et insolent envers ceux qui en avaient fait une étude. Au reste, ardent au plaisir, passionné pour les femmes, incessamment occupé des exercices du corps qui pouvaient le faire briller à leurs yeux, et surtout de la paume, jeu auquel il était d'une grande force, et se promettant bien, aussitôt que son deuil serait passé, d'occuper non seulement Florence, mais encore l'Italie tout entière, par la splendeur de sa cour et par le bruit de ses fêtes. Ainsi, du moins, l'avait résolu Pierre de Médicis. Mais le ciel en décida autrement. Quant à la sérénissime République de Venise, dont Augustin Barbarigo est le doge, elle est parvenue, à l'heure où nous sommes arrivés, à son plus haut degré de puissance et de splendeur. Depuis Cadix jusqu'au Palus Méotide, elle n'a pas un port qui ne soit ouvert à ses 1000 vaisseaux. Elle possède, en Italie, outre le littoral des lagunes et l'ancien duché de Venise, les provinces de Bergame, de Brescia, de Crème, de Vérone, de Vicence et de Padoue. Elle a la marche trévisane qui comprend le Feltrin, le Bellunois, le Cadorin, la Polésine de Rovigo et la principauté de Ravenne. Elle a le Frioul, moins Aquilée, l'Istrie, moins Trieste. Elle a, sur la côte orientale du Golfe, Zara, Spalatro et le littoral de l'Albanie. Elle a, dans la mer lointaine, les îles de Zante et de Corfou. Elle a, en Grèce, les Pentes et Patras. Elle a, dans la Morée, Moron, Coron, Napoli di Romanie et Argos. Enfin, dans l'archipel, outre plusieurs petites villes et des établissements sur les côtes, Elle a Candie et le royaume de Chypre. Ainsi, depuis l'embouchure du Pô jusqu'à l'extrémité orientale de la Méditerranée, la Sérénissime République est maîtresse de tout le littoral et l'Italie et la Grèce semblent le faubourg de Venise. Dans les intervalles laissés libres entre Naples, Milan, Florence et Venise, de petits tyrans se sont établis, exerçant une souveraineté absolue sur leur territoire. Ainsi, les colonnes sont à Ostie et à Nettuno, les Montefeltri à Urbain, les Manfredi à Faenza, les Bentivogli à Bologne, les Malatesta à Rimini, les Vitelli à Città del Castello, les Baglioni à Pérouse, les Orsini à Vivocaro et les Princes d'Est à Ferrare. Enfin, au centre de ce cercle immense, composé de grandes puissances, d'États secondaires et de petits tyrans, s'élève Rome, placée en haut de la spirale, la plus élevée mais la plus faible de tous, sans influence, sans territoire, sans armée et sans argent. Il s'agit pour le nouveau pontife de lui rendre tout cela. Voyons donc quel homme c'était qu'Alexandre VI pour entreprendre et accomplir un pareil projet.